Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. À moins de 2 semaines de la présidentielle, la tension monte en Côte d'Ivoire. Sur fond d'appel à la désobéissance civile et au boycott du processus électoral lancé par l'opposition, depuis vendredi, les violences entre manifestants de l'opposition et forces de l'ordre, entre partisans et adversaires d'Alassane Ouattara, ont fait 3 morts. La CDAO, venue pour la 2e fois en 1 semaine jouer les médiateurs, a rencontré tous les protagonistes de la crise, mais ne leur a pas arraché la moindre concession. Elle a dû se contenter hier soir d'appeler les 2 camps à faire des efforts considérables pour que le scrutin se passe bien. Elle a souhaité une élection inclusive et demandé à l'opposition de renoncer à son mot d'ordre de désobéissance civile. On attend aujourd'hui une déclaration commune de la plateforme de l'opposition. Alors que pensez-vous de cette mission de la CDAO? Son absence de résultats concrets fait-il l'affaire du pouvoir ivoirien? Pourquoi la délégation conduite par le Ghana n'a-t-elle pas réussi à pousser les uns et les autres au compromis pour éloigner le spectre d'un scrutin à haut risque? Donnez-nous votre avis, appelez-nous au 33 9 693 693 70 ou sur WhatsApp au 33 6 89 28 53 64. Mais d'abord, vos questions à la rédaction de RFI. Le gouvernement israélien vient de donner son feu vert à l'arrivée de 2000 juifs en provenance d'Éthiopie. C'est le sujet qui a retenu votre attention, Mamadou Abdoulaye, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous nous appelez de Mbourg au Sénégal. En ligne avec nous de Jérusalem, notre correspondant en Israël, Guilhem Deltey. Bonjour Guilhem.
Bonjour Chantal.
Mamadou Abdoulaye, quelle est votre question pour Guilhem Deltey?
Voilà donc 8 à 9 000 falachas, les juifs d'Éthiopie, sont allés vivre en Israël. Le gouvernement limite son nombre à 2000. Pourquoi ce nombre à 2000?
Alors Guilhem, est-ce que l'on sait tout d'abord combien il y a de juifs en Éthiopie actuellement?
Eh bien, c'est effectivement assez compliqué à évaluer. Les juifs éthiopiens, appelés les Beta Israël, ce qui veut dire la maison d'Israël, ont une histoire compliquée. Les communautés vivaient essentiellement dans le nord du pays, mais elles ont été coupées des autres communautés juives du monde pendant des siècles et leurs pratiques religieuses diffèrent donc. Mais l'État d'Israël les reconnaît comme juifs et les a autorisés à émigrer vers Israël. Ils sont venus majoritairement au cours de 2 vagues d'immigration entre la fin des années 70 et les années 90. Mais il y a aussi des communautés juives qui, elles, se sont converties ou ont été converties au christianisme. Beaucoup de ces personnes ont tout de même conservé des rites religieux qui sont inspirés du judaïsme. Certains de leurs descendants sont même revenus ouvertement vers le judaïsme. Eux ne sont pas des Beta Israël, mais des Falashmoura ou des Falasha, un terme d'ailleurs rejeté par la communauté, car péjoratif, qui marque les discriminations dont cette communauté souffre. Alors, eux ne sont pas reconnus comme juifs par l'État d'Israël. Ils ne disposent donc pas d'un droit au retour en Israël automatique, comme les juifs du monde entier. Leur immigration est liée à des décisions politiques du gouvernement israélien et à leur arrivée, ils doivent entreprendre un processus de conversion vers le judaïsme orthodoxe. Leur nombre est difficile à évaluer avec certitude, car il y a eu plus de contacts, d'alliances avec des chrétiens. La taille de cette communauté est évaluée à 8, 9 ou parfois un peu plus de 10 000 personnes encore présentes en Éthiopie.
Alors c'est donc 2 000 personnes de cette communauté que le gouvernement israélien va autorisés à émigrer en Israël. Pourquoi 2000 seulement?
Alors, il est vrai qu'en 2015, le gouvernement s'était engagé à faire venir tous les juifs éthiopiens en Israël, mais le projet n'a jamais été mené jusqu'au bout. Certains militants en faveur de cette immigration juive éthiopienne dénoncent un racisme de la part du gouvernement israélien, s'indignant que leur communauté soit la seule à ne pas bénéficier du droit au retour et à être soumise à ces quotas. Mais il y a aussi une question financière. Faire venir ces personnes a un coût pour l'État d'Israël. Le gouvernement a ainsi débloqué plus de 90 millions d'euros pour l'immigration de ces 2000 personnes. Mais l'objectif de faire venir tous les juifs éthiopiens demeure. La ministre de l'immigration actuelle est d'ailleurs elle-même d'origine éthiopienne. C'est la première fois qu'une personne de cette communauté accède à un poste ministériel en Israël et le sujet lui tient à cœur. Elle a promis de présenter un plan pour mener à bien ce projet au cours des 3 prochaines années. Mais ce gouvernement, Chantal, est aussi fragilisé par les tensions entre le Likoud et Bleu Blanc, les 2 principaux partis qui le composent, et sa durée de vie pourrait être courte. Le plan promis pourrait également ne pas avoir le temps d'être présenté.
Mamadou Abdoulaye, vous avez une autre question pour Guilhem Deltey?
Oui, Oui. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour l'accueil et l'installation de ces nouveaux arrivants une fois en Israël?
Parce que cette installation est prise en charge par l'État israélien, Guilhem, et évidemment, elle a un coût financier.
Oui, effectivement, on l'évoquait, plus de 90 millions d'euros débloqués pour les 2000 personnes qui doivent arriver là dans les prochains mois. Alors il y a d'abord la préparation du départ qui coûte de l'argent, les entretiens pour vérifier la lignée juive des candidats au départ et les informer de ce qui les attend à leur arrivée en Israël. Et puis le vol, ces coûts-là sont déjà estimés à 4 millions de dollars pour les 2000 personnes qui doivent arriver dans les prochains mois. Et puis tout nouvel arrivant en Israël entre ensuite dans un processus d'intégration qui est pris en charge par l'État. Ils sont envoyés dans des centres d'absorption où l'objectif principal est d'apprendre l'hébreu et de prendre ses marques dans la société israélienne. En général, le logement est payé, des cours de langue également, une allocation est aussi versée pendant une période pouvant aller jusqu'à un an. C'est au terme de ce délai-là que les nouveaux venus doivent être autonomes, mais chaque arrivée représente donc un coût important pour l'État d'Israël.
Merci beaucoup Guilhem Deltay, à bientôt sur l'antenne de RFI. Mamadou Abdoulaye, bonne journée à Mbourg. On va parler football à présent et je suis ravie d'avoir à mes côtés Olivier Pron du service des sports de RFI. Bonjour Olivier.
Mais je suis ravie aussi. Bonjour Chantal, bonjour à tous.
Nous avons en ligne Nimir qui nous appelle de Bouéa au Cameroun. Bonjour Nimir.
Bonjour Madame Chantal, bonjour à tous les deux de RFI.
Alors Nimir, vous vouliez qu'on évoque la crise qui secoue le FC Barcelone.
Oui, effectivement.
Alors allez-y, on vous écoute.
Début octobre, une lettre a été envoyée à tous les salariés du FC Barcelone pour leur signifier que le salaire allait être baissé. Face au rejet des joueurs, le président du FC Barcelone, Bartomeu, a déclaré qu'il resterait ferme sur cette décision. Alors, j'aimerais savoir comment expliquer que le FC Barcelone traverse une telle crise économique.
Olivier Pron, j'imagine que le Covid est passé par là?
Mais oui, comme tous les clubs. Il n'y a pas un club dans un grand championnat ou même un championnat dit plus petit dans le monde qui n'ait pas été touché par la crise. Déjà, le simple fait qu'on joue à huis clos, ça entraîne des baisses de recettes, de billetterie phénoménales. Le FC Barcelone estime à 200 millions ses pertes, ses revenus en moins sur la saison dernière depuis le début de la pandémie. Des pertes nettes qui sont l'équivalent de 97 millions d'euros. Il avait déjà été demandé aux joueurs au mois de mars de baisser leur salaire. Ils avaient accepté 70% en moins, ce qui avait permis au Barça d'éponger un petit peu cette dette. 42 millions d'euros récupérés grâce à cette baisse de salaire, 30 millions récupérés grâce à un contrôle plus strict des frais de gestion et 2 millions récupérés grâce aux baisses de salaire des personnes du club, car il n'y a pas que les joueurs, il y a évidemment toutes les petites mains et c'est bien là le nœud du problème, on va en reparler.
Alors aujourd'hui, le président du FC Barcelone demande une baisse de dans quelle fourchette, une baisse de salaire dans quelle fourchette?
30%. Ce qui est contesté par les joueurs, c'est la manière, encore une fois. Il faut savoir qu'on est vraiment dans un climat de défiance depuis plusieurs mois entre les joueurs et ce président Bartomeu. Alors on ne parle même pas du feuilleton Messi qui a duré tout l'été, donc Messi le fer de lance de cette contestation à l'encontre de Josep Maria Bartomeu. Il envoie un mail à ses joueurs en pleine trêve internationale, c'est-à-dire quand ceux-ci sont avec leur sélection début octobre. C'est pas très, c'est un petit peu cavalier comme manière de procéder. Il veut que les joueurs désignent l'un des leurs pour venir avec lui négocier avec les autres membres, les fameuses petites mains, les représentants du personnel du club. Les joueurs refusent. Ils lui ont envoyé un fax. Alors pas tous. Il y en a quatre qui se sont désolidarisés
du mouvement. Oui, il y a des dissensions au sein du vestiaire.
Clément Lenglet, le Français, Ter Stegen, le gardien, Pjanic qui vient d'arriver de la Juventus, Miralem Pjanic, et puis De Jong. Ces quatre-là n'ont pas signé le fax. Mais dans ce fax, les joueurs disent on ne veut pas de nouvelles baisses, ou en tout cas pas dans ces conditions-là. On veut, nous, non pas être représentés par un joueur, mais ils ont pris un avocat. Ils demandent à ce que cet avocat négocie à part, négocie avec Bartomeu, parce que les contrats sont très confidentiels au Barça. On n'a pas envie non plus que tout le monde soit au courant du contrat des uns, des autres. Il y a le salaire, il y a les primes qui peuvent être extrêmement conséquentes. Donc, en gros, les joueurs veulent un avocat pour négocier. Tout ça, encore une fois, dans un contexte très compliqué avec Bartomeu et des élections prévues en mars prochain, mais qui pourrait ne pas avoir lieu car une motion de défiance a été votée par les sociaux à l'encontre de Bartomeu. Elle n'a pas pu avoir lieu, cette réunion et cette assemblée, pour cause de Covid aussi.
Nimir, vous avez une autre question pour Olivier?
Effectivement. La direction a donné un délai de 15 jours aux joueurs pour accepter cette baisse. Dans le cas contraire, l'affaire ira en justice. Les joueurs et la direction peuvent-ils trouver un compromis avant d'en arriver là ?
Olivier.
Compliqué. Si jamais on accepte effectivement qu'ils soient représentés par un avocat, l'idée, encore une fois, ils sont prêts à baisser leur salaire. On pense qu'ils voudraient obtenir en fait une baisse maintenant et puis un remboursement de la dette dans les mois ou les années qui viennent ou les saisons qui viennent. En tout cas, la négociation pour l'instant n'a pas commencé parce qu'on n'est pas d'accord sur les modalités de la négociation. Mais les joueurs sont a priori en position de force face à un Bartomeu, encore une fois, qui a une motion de défiance de la part des supporters, qui ne fait pas l'unanimité, loin s'en faut, dans le vestiaire, et qui est clairement en grande difficulté.
Alors, est-ce que ce bras de fer entre les joueurs et la direction du club a un impact sur le jeu de l'équipe ?
On va voir ce soir. En championnat, c'est pas terrible. Ils ont perdu, les Barcelonais, ce week-end. Remarquez, c'est arrivé aussi au Real Madrid. Les deux cadors de la Liga se sont inclinés samedi. On va voir ça. Leur début en Ligue des Champions, c'est contre un club hongrois, si je ne m'abuse, Ferencváros. Si Barcelone ne bat pas un club hongrois, c'est que vraiment, vraiment, ça va très très mal. Mais de toute façon, le Barça va mal globalement depuis quelques mois dans le jeu, au sein d'une Liga qui perd un peu de son standing, il faut le reconnaître, par rapport à d'autres championnats européens.
Merci Olivier. Le prochain grand rendez-vous de football sur l'antenne de RFI.
Mais c'est ce soir. Soirée spéciale Ligue des Champions. Il y en aura 12. Vous allez avoir Martin Guez aux commandes, deux envoyés spéciaux sur des matchs, Annie Guesnier et son orchestre après pour Radio Foot. Soirée complète. Vous ne raterez rien, soyez là.
C'est noté. Merci Nimir d'avoir été avec nous. Bonne journée à Bouéa. Greenpeace accuse des navires chinois de pêche illicite au large du Sénégal. On va en parler avec Abdoulaye Ndiaye, chargé des campagnes océan pour Greenpeace Afrique. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour.
Et c'est Mamadou qui est en ligne de Dakar qui a souhaité en savoir plus sur le sujet. Mamadou, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour les auditeurs de la RFI.
Mamadou, vous avez la parole.
Oui, Greenpeace dénonce dans son rapport que la procédure d'attribution des marchés de pêche aux navires chinois n'était pas transparente. Alors, je voudrais savoir comment l'ONG a-t-elle enquêté pour dans ces procédures d'attribution.
Abdoulaye Ndiaye.
Merci Mamadou. Donc, le rapport de Greenpeace intitulé « Mal de mer » est basé sur l'observation de navires de pêche et des usines de farine de poisson au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie. Et ça s'est passé de mars 2020 jusqu'à juillet 2020. Et sur la base des données du système d'identification automatique qu'on appelle AIS, utilisé par les navires dans le monde entier, les recherches de Greenpeace Afrique confirment que des navires de pêche industrielle ont participé à des activités douteuses au cours de la période observée. Là, c'est sur le côté recherche AIS. De l'autre côté aussi, Greenpeace a mené des enquêtes de terrain auprès des organisations de pêche industrielle et artisanale qui sont membres de la commission consultative d'attribution des licences de pêche industrielle au Sénégal. Et ces recherches aussi ont démontré qu'effectivement, toutes les organisations ont demandé à l'État du Sénégal de leur fournir la liste actualisée des navires autorisés à pêcher au Sénégal. Et toutes ces organisations sont membres de cette commission. Mais les services du ministère de la Pêche n'ont jamais accepté de donner ces listes-là à ces organisations. Et Greenpeace aussi, quand il est entré dans la DAS, Greenpeace a écrit à deux reprises au ministère pour demander, pour savoir quelle est la liste des navires qui sont autorisés à pêcher au Sénégal aujourd'hui pour pouvoir faire le distinguo entre ce qu'on a vu à travers les AIS et ce que nous ont dit les organisations. Mais malheureusement aussi, le ministère n'a pas voulu donner de suite à notre requête. Donc, dans les observations qu'on a vues, effectivement, il y a des bateaux qui ont des noms Fu Yuan Yu qui ont été observés dans cette zone économique exclusive du Sénégal en train de pêcher et dont il n'y a pas de preuve qu'ils ont des licences de pêche sénégalaise.
Mamadou, vous avez une autre question pour Abdoulaye Ndiaye ?
Oui, j'aimerais savoir, ce rapport peut-il avoir des conséquences sur l'activité des navires ainsi que sur la réglementation de la pêche au Sénégal ?
Abdoulaye.
Je crois que c'est ce que l'on souhaite, au moins que des mesures soient prises pour une meilleure gestion des ressources halieutiques du Sénégal, dont dépendent beaucoup de populations. Parce que si aujourd'hui on dit aux pêcheurs, parce que ce que nous ont dit les organisations de pêcheurs, aujourd'hui il est interdit aux pêcheurs sénégalais de construire une nouvelle embarcation de pêche. Et ce pêcheur à qui on a interdit de construire une nouvelle embarcation de pêche, on l'a basé uniquement sur un surplus de capacité qui se trouve au Sénégal et sur une rareté des ressources. Comment le Sénégal peut dire à ces pêcheurs, il ne faut plus construire de nouvelles embarcations parce qu'il faut qu'on gère bien et se permettre de signer des licences à des bateaux qui sont beaucoup plus puissantes en termes de prélèvement que les navires, que les pirogues de pêche sénégalaises, mais aussi qui ne sont pas des bateaux qui sont sénégalais. Même s'il y a des personnes qui disent que nous sommes des Sénégalais qui appartiennent 51% des parts, mais en termes de prélèvement, le navire de pêche industriel est beaucoup plus fort que la pirogue de pêche artisanale.
Merci beaucoup Abdoulaye Ndiaye pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes chargé des campagnes océans pour Greenpeace Afrique. Mamadou, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à Dakar. On va terminer cette première partie de l'émission avec le Tchad, où le pouvoir veut reprendre le contrôle des mines d'or dans la zone du Tibesti, limitrophe de la Libye. Moussa, bonjour.
Oui, bonjour Chantal et bonjour à tous les fidèles héritiers de la Radio France Internationale et un grand merci à tous ceux qui sont dans l'ombre qui préparent l'émission du lundi au vendredi.
Absolument, toute l'équipe est là et vous écoute. Vous nous appelez de N'Djamena, hein, Moussa. Esdras Ndikoumana du service Afrique de RFI est avec nous également. Bonjour Esdras.
Bonjour Chantal, bonjour tout le monde.
Moussa, on vous écoute.
Oui, le gouvernement tchadien ordonne la fermeture de suite des orpaillages illégaux du pays. À ce sujet, j'aimerais savoir comment expliquer le timing de ces décisions gouvernementales.
Esdras.
Oui, en fait, sachez d'abord que le gouvernement n'a pas ordonné uniquement la fermeture des sites d'orpaillage illégaux du pays. Il va plus loin. Il a décidé de déguerpir en même temps tous les orpailleurs qui s'y trouvent, hein, et donc de renvoyer dans leur pays d'origine les milliers d'étrangers qui s'adonnent à l'orpaillage clandestin et de fermer les sociétés minières qui ont pignon sur rue et qui ne sont pas en ordre par rapport au nouveau code minier tchadien. Il y a donc une volonté de faire le ménage pour prendre le contrôle du secteur minier qui lui échappe totalement. Des milliers d'orpailleurs, en fait, illégaux étrangers, ont participé à la ruée vers l'or depuis la découverte des riches gisements du Tibesti. C'est dans le nord-est du pays, il y a une dizaine d'années. Du coup, cet or passerait clandestinement par le Soudan et l'Égypte avant d'être écoulé dans le Moyen-Orient, selon des spécialistes. Il s'agit donc pour le gouvernement d'une véritable menace au niveau de la sécurité. Ça, c'est la raison officielle avancée par le gouvernement tchadien. Mais au-delà de cet aspect sécuritaire, il y a des impératifs économiques. Les revenus pétroliers du Tchad ont fortement baissé au cours des dernières années et les caisses sont vides. Idriss Déby cherche donc à prendre le contrôle de ce secteur afin de renflouer les finances publiques.
Et le gouvernement veut également reprendre le contrôle de la région du Tibesti, une zone de non-droit actuellement.
Oui, absolument. De nombreux gisements d'or ont été découverts dans le secteur de Yebibou, c'est dans le Tibesti, et le gouvernement a déjà signé des contrats avec de grosses majors du secteur minier, notamment d'origine canadienne ou encore sud-africaine ou israélienne. Mais impossible pour ces sociétés d'y poser un pied en raison de l'hostilité des populations locales qui se sont constituées, par exemple, en un comité d'autodéfense de Miski qui s'y est opposé par les armes. En fait, une année d'affrontement et un accord de paix signé avec ce comité fin 2019 n'y ont rien changé, eh bien, ce comité continue de refuser toute exploitation de l'or dans la région par le gouvernement en dénonçant en fait une tentative de la famille Déby de prendre le contrôle de cette manne aurifère. Donc du coup, le gouvernement tchadien en a eu assez et a donc décidé d'imposer sa loi.
Alors brièvement, Esdras, comment le gouvernement compte-t-il appliquer cette décision dans la région du Tibesti où la population s'oppose à l'exploitation de l'or par des personnes extérieures à la région, hein ? En deux mots, Esdras.
Oui, en fait, là, on en est encore une posture politique. Hein, le bras de fer est engagé, mais aucun, du côté militaire, pas de mouvement de troupes, aucun préparatif militaire n'est visible pour le moment. Difficile donc de dire ce qui va se passer réellement, mais une chose est sûre, la tension est en train de monter d'ailleurs de plusieurs crans, parce que les populations locales ont commencé à fourbir leurs armes.
Merci beaucoup, Esdras Ndikoumana. On fait une pause le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve juste après pour débattre du rôle que pourrait jouer la CEDEAO ou que devrait jouer la CEDEAO pour résoudre la crise en Côte d'Ivoire.